France Culture.
Bonjour le Book Club et bonjour Adèle Yon. Moi j'ai été absolument frappée, sonnée et aussi révoltée par l'histoire de Betty et votre arrière-grand-mère. Votre roman a été une véritable expérience de lecture pour moi, à la fois émotionnelle, psychique, physique aussi.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Une enquête en forme de vertigineux puzzle au programme de votre book club aujourd'hui. Une autrice qui tente de percer les volutes de silence et images figées qui entourent l'histoire de son arrière-grand-mère, diagnostiquée schizophrène dans les années 50 et très longtemps internée à ce titre. À l'écoute des membres de sa famille, en fouillant les fonds d'archives, en retraçant l'histoire de l'institution psychiatrique, son récit polyphonique se fait tout à la fois enquête à suspense, road trip existentiel, roman d'apprentissage, voyage ethnographique et parfois horrifique, il captive autant qu'il bouleverse. Mon vrai nom est Elisabeth et son titre et son autrice Adèle Yon est notre invitée. À 15h50, comme chaque lundi, Clémentine Mélois tire des fils qui vont de l'actualité à nos imaginaires littéraires. Aujourd'hui, elle nous conseille quelques lectures nous permettant d'y échapper à cette actualité quelque peu terrifiante, disons-le. Elle nous dira lesquelles. Et en fin d'émission, comme chaque jour, nous jouerons à trouver de la musique dans un livre pour nous quitter en chanson. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et bonjour à vous, Adèle Yon.
Bonjour Mathilde Wagman.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct cet après-midi pour parler de ce livre absolument passionnant. Il a paru aux éditions du Sous-Sol et fait partie vraiment de ces livres qu'on lâche pas une fois entamé. C'est assez rare et c'est un plaisir inégalé, je vous le disais avant qu'on commence cet entretien. On va en parler tout à l'heure dans un deuxième temps de la conversation. Mais pour commencer, au Book Club, on a coutume de faire d'abord le portrait de nos invités en tant qu'ils sont des lecteurs, des lectrices, de raconter leur parcours de lecteurs, leur lien au livre. Je vous pose la question qui ouvre rituellement ce questionnaire. Est-ce que vous vous souvenez où, quand, dans quel paysage, auprès de qui vous avez appris à lire ?
Je pense que j'ai appris les histoires avant d'apprendre la lecture et j'ai appris le sens de défilement des pages avant d'apprendre à déchiffrer des mots. Parce que bizarrement, quand je pense à cette question-là, mon premier souvenir de lecture est une lecture en images et ce serait les albums de Claude Ponty.
Ouais.
Et en particulier celui qui portait mon prénom, Adèle Sanmel.
Bien sûr.
Qui m'a beaucoup guidée quand j'étais petite et qui a un sens de lecture vraiment comme si c'était des mots, sauf qu'à la place des mots, ce sont des images. Et étrangement, je pense que c'est mon premier souvenir de lecture. Et un petit peu plus tard, il y a eu la transition entre mon grand-père maternel qui me lisait les Trois Mousquetaires de Dumas et la capacité de les lire moi-même. Et donc, il y a une transition comme ça de l'histoire racontée à l'histoire lue sur le même contenu avec cette saga des Trois Mousquetaires qui m'a laissé un goût ininterrompu pour les romans feuilletonnants comme ça, qu'ils soient historiques ou qu'ils soient science-fictionnesques aussi. Il y avait beaucoup de ça dans mon enfance et mon adolescence. Mais la transition s'est vraiment faite par les histoires que l'on me raconte.
Mais ça veut dire que votre grand-père avait commencé à vous lire l'histoire et qu'à un moment vous avez pris son relais en la lisant
tout seul. C'est le souvenir que j'ai. Je sais pas à quel point c'est exact, mais je me souviens parfaitement de lui lisant comme ça les Trois Mousquetaires. Je me souviens vraiment, les Trois Mousquetaires. Ce qui est marrant, c'est qu'avant ça, il y avait une histoire qui nous racontait à mes sœurs et moi quand on était petites, qui était les 3 A. Donc je pense que c'est qu'on était trop petites pour comprendre les Trois Mousquetaires, donc il avait remplacé ça par les 3 A. C'était l'histoire de 3 frères. Nous, on était 3 sœurs, mais lui, c'était 3 frères.
Mais du coup, histoire de son invention.
Une histoire complètement de son invention. Et il y a eu une transition des 3 vers les Trois Mousquetaires, dont là, je me souviens qu'il nous la lisait. Et puis, dans mon souvenir, de cette histoire racontée à cette histoire lue. C'est mon premier souvenir de lecture, véritablement.
Ça veut dire que dans votre environnement familial, il y avait des livres, il y avait beaucoup de livres chez vos parents. Si on vous lisait des livres, j'imagine que c'est le cas.
Il y avait beaucoup de livres chez mon grand-père maternel et chez mes parents, il y avait aussi beaucoup de livres, mais de trois genres. Mon père ne lisait que des livres qui avaient à voir avec la Shoah, de manière monomaniaque. Donc il y avait beaucoup de ça. Et ma mère ne lisait que des livres en lien avec l'actualité politique ou de la littérature russe, généralement dans des ouvrages bilingues, puisqu'elle avait fait une maîtrise de slavistique.
D'accord.
Voilà, donc la bibliothèque de mes parents ressemblait à ça. Et j'avais aussi beaucoup de liens avec donc la bibliothèque de mon grand-père qui était remplie de BD et de sagas historiques ou de science-fiction avec des choses mais alors complètement obscures qu'il m'a toutes données les unes après les autres et donc que j'ai aujourd'hui dans ma bibliothèque personnelle. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, je ne sais même pas comment le prononcer, Burrut, celui qui a écrit les Tarzan, le cycle de Vénus, ce genre de choses, et qui en fait, bon, qui sont des textes écrits à la fin du, enfin milieu du XXe siècle, mais qui en fait préfigurent pas mal ce que sera la littérature fantastique adolescente des années 2000, parce que je suis en plein dans cette génération-là, évidemment, Harry Potter, les Orphelins Baudelaire, Peggy Sue, les Philippe Pullman, tout ça. Mais en fait, j'avais une sorte de prévision de ce moment de lecture par ces espèces d'obscurs auteurs que mon grand-père m'avait légué pendant mon adolescence.
Et alors, est-ce qu'au-delà de ces régions très précises du point de vue thématique du côté de votre grand-père ou du côté de vos parents, vous êtes frayé un chemin à vous, un domaine à vous? Est-ce que vous vous souvenez comme ça de lectures, de découvertes, de territoires littéraires qui ont compté pour vous à partir du moment où vous saviez lire toute seule ou à l'adolescence?
Oui, alors peut-être beaucoup plus tard, mais d'ailleurs de manière générale, je pense que c'est la première fois que j'ai eu l'impression d'avoir un territoire de connaissance vraiment à moi. Ça a été la philosophie, donc vous voyez, plus tard vraiment en terminale, à stage où on découvre la philosophie, et où mes lectures ont pris ce tournant-là, non pas du tout sur le terrain des sciences humaines ou des lectures théoriques, mais de romans dans lesquels je trouvais l'illustration des questions que je rencontrais à travers le cheminement auquel nous ouvraient les cours de philosophie au lycée. Par exemple, je me souviens très nettement de L'âge de raison de Sartre, que j'ai lu à cette époque-là. Et j'avais par ailleurs une passion pour Sartre en tant que philosophe, donc je pense que ça s'est rejoint. Je me suis quand même fadée L'être et le néant. Bon, intégralement, je sais pas, mais j'étais quand même dans cette dynamique-là à ce moment-là. Je me souviens voilà de L'âge de raison de manière assez forte. Et je me souviens d'avoir eu le même rapport, la même approche de toute la littérature, de tous les bouquins de Dostoïevski, de les avoir rencontrés dans un endroit qui n'était pas vraiment émotionnel, mais qui était assez théorique, en fait. Et je me souviens notamment de la lecture des Frères Karamazov en plein milieu de ma prépa, je pense, et d'avoir une interrogation comme ça sur la place de la religion dans nos vies, etc. Enfin, voilà, des interrogations philosophiques assez générales que je trouvais, que je nourrissais par des lectures romanesques.
Des romans qui incarnaient des questions philosophiques, métaphysiques. Fort, c'est intéressant parce que dans le livre dont on va parler aujourd'hui, votre premier récit, Mon vrai nom est Elisabeth, il y a comme ça la rencontre entre un champ qu'on pourrait dire théorique et quelque chose de l'ordre du romanesque, même si c'est une histoire réelle. J'ai noté qu'il n'y avait pas, très peu de citations littéraires en tant que telles. Me revient en vous écoutant le fait qu'à un moment, vous notez que dans la voiture d'un homme décédé qui ouvre votre récit, sans en dire trop à ce stade, on trouve un livre de Sartre, si je ne dis pas de bêtises, les mots. Mais vous-même, vous citez Jane Eyre de Charlotte Brontë, mais à part ça, pas tant de textes littéraires. Des films, mais par contre, au travers de la lecture de votre texte, nous viennent en tête beaucoup de références de l'ordre du champ théorique, qu'il s'agisse de la philosophie ou de l'histoire. On pense à Canguilhem, on pense à Foucault, bien sûr, etc. On va y revenir. Quelle place est-ce que ça occupe dans votre vie de lectrice aujourd'hui, le champ vaste des sciences humaines? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pour vous un domaine qui figure dans votre bibliothèque au même titre que les romans?
Bah, c'est un champ qui a été dominant en fait dans ma bibliothèque depuis 5 ans ou même 7 ans pour des raisons de parcours de recherche évidentes, et ce qui fait que là
parce que vous avez fait des études littéraires, vous avez étudié à l'école normale, vous avez fait un parcours classique d'étudiante en sciences humaines,
tout
simplement.
À fait, et parce que dans une démarche de thèse, il fallait bien nourrir ces recherches là de toutes ces lectures théoriques que je me suis mise à lire de manière extrêmement rapide, de plus en plus vite, pas forcément toujours avec attention aussi, donc une sorte de voilà de dévoration de cette littérature, enfin de des sciences humaines, mais si bien qu'en fait la littérature en est venue à me manquer, et c'est ce qui là le mouvement dans lequel je suis depuis un an, je dirais, depuis que j'ai assumé que mon vrai nom est Elisabeth allait être un livre et pas seulement une thèse, aussi une thèse mais pas seulement une thèse, c'est un retour comme ça vers la littérature, et donc je suis un peu en saturation de sciences humaines, en besoin de pause avec les sciences humaines, et je redécouvre je découvre en fait surtout la littérature contemporaine qu'on m'a jamais donné à connaître, parce qu'évidemment ça correspondait pas au type de parcours que je faisais, et donc là je vous avoue que je nage dedans, je barbote dedans avec plaisir. Et c'est des découvertes sensationnelles, et donc je mets les sciences humaines un peu de côté.
Et alors dans ce champ de la littérature contemporaine, est-ce qu'il y a eu comme ça des rencontres particulièrement fortes? Est-ce qu'il y a des auteurs, des autrices qui vous viennent en tête, qui ont compté pour l'écriture de ce livre, ou pas du tout, qui comptent juste comme dans votre vie de lectrice?
Je me souviens que ma première, vraiment, c'est pour dire à quel point je ne connaissais rien de la littérature contemporaine. Je me souviens de la première fois où j'ai lu un livre de littérature contemporaine. On est quasiment là. J'avais organisé, j'avais un ciné-club au cinéma Le Luminor dans le 4e arrondissement à Paris, et j'avais organisé une projection du film Bande de filles de Céline Sciamma. Mmh. Et dans ce cadre-là, j'avais souhaité faire venir une autrice qui s'appelle Céline Minard, et dont, qui sortait à ce moment-là son livre qui s'appelait Les Bacchantes. Et dont je venais de lire « Faillir être flinguée ». Et je ne sais plus vraiment pourquoi j'étais tombée sur ce livre, hormis que je trouve que c'est le plus beau titre de la littérature, mmh. « Vraiment faillir être flinguée ». Et je pense que ça a été... J'avais un certain snobisme, je pense, qui venait de mes études envers cette littérature-là. Et je me souviens d'avoir plongé dans ce livre et d'avoir eu une émotion, n'est même pas le mot, un plaisir de lectrice, peut-être un peu le même que celui dont vous parliez tout à l'heure, où je retrouvais cette émotion de ne pas pouvoir sortir de mon lit et d'avoir envie de tourner les pages, dans quelque chose, surtout un grand bien-être en fait avec cette écriture, une forme d'aisance dans cette écriture, et c'est quelque chose. Alors mon vrai nom Elisabeth est pas du tout dans ce terrain littéraire là, puisque Faillir être flinguée c'est un western globalement, mais en fait cette présence au récit, c'est quelque chose que je recherche beaucoup et que j'ai envie de développer dans mon écriture ultérieure. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué pour ça.
Est-ce que vous avez une table de chevet? Et si oui, est-ce qu'il y a des livres dessus en ce moment? Et si oui, lesquels?
Oui, alors c'est toute une organisation autour de mon lit, tous ces bouquins. Il y a la table de chevet avec les livres en cours, il n'y en a jamais qu'un, ça c'est sûr. En ce moment, il y a le deuxième tome de Monstres, la bande dessinée d'Émile Ferris. Il y a...
Moi ce que j'aime c'est les monstres.
Moi ce que j'aime c'est les monstres, tout à fait. Il y a Marianne Day, la chef... Il y a Janet, un meurtre, Maggie Nelson. Ensuite, il y a la zone un peu plus loin qui est l'étagère juste à côté de mon lit, où là, il y a soit les livres au purgatoire, c'est-à-dire ceux dont je n'ai pas réussi à aller aboutir la lecture, soit ceux dont j'ai besoin de sentir la proximité pour me sentir bien. Et là, il y en a un dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui a été fondateur fondamental pour moi de littérature contemporaine, qui est La fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch, qui par exemple, lui me regarde, me darde sur moi son regard bienveillant, que je laisse toujours très proche.
Il faut pas qu'il soit trop loin de vous,
c'est ça.
De peur que la bienveillance vous quitte. On va aller vers votre livre à vous, Adèle Lyon. Mon vrai nom est Elisabeth. Et pour nous y conduire, je vous propose qu'on écoute cette chanson d'un duo de deux chanteuses et musiciennes catalanes. Le groupe s'appelle Tarta Relena et la chanson qu'on va écouter s'appelle Galenismos, le galénisme, du nom d'un système médical élaboré au Moyen-Âge et utilisé pendant plusieurs siècles dans différentes civilisations. Anna Holweck, notre réalisatrice, a pensé à cette chanson parce qu'il est beaucoup question d'histoire médicale dans votre texte aussi, mais aussi de voix de femmes en particulier, comme le chœur qu'on entend dans cette chanson.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Comment comprendre qu'une fois la lecture de votre enquête commencée, Adèle Yon, on ait à ce point l'impression de ne plus pouvoir se soustraire à son récit, à son mouvement, à sa destination? C'est une question que je me suis posée à la lecture de ce livre, près de 400 pages de compte-rendu d'une recherche de plusieurs années pour laquelle vous êtes partie sur les traces de votre arrière-grand-mère, diagnostiquée schizophrène au début des années 50, internée pendant 17 ans à ce titre, et au sujet de laquelle vous ne saviez en commençant quasiment rien. Alors il s'est agi pour vous de reconstruire son histoire avec différents outils qui deviennent les matériaux composites du livre qui nous parvient. Des entretiens, une correspondance, des documents d'archives médicales, un voyage dans l'institution où votre aïeul a passé tant d'années, à la rencontre de personnes y ayant travaillé, ou encore une reconstitution historique de la pratique de la lobotomie. Si cette enquête fournit son lot de révélations, à commencer par les liens terrifiants entre les violences patriarcales et psychiatriques, ce qui en fait le suspense, c'est, me semble-t-il, davantage notre envie de rencontrer Betsy, cette aïeule, et à votre suite, de nous figurer sa souffrance. Il y a dans ce texte une puissance d'incarnation de chacun des personnages croisés, aussi bien que de celle dont il retrace le parcours, qui relève d'une pure prouesse et nous laisse le refermant profondément reconnaissant, car cette histoire est aussi, en creux, la nôtre. Mon vrai nom est Elisabeth est le titre de ce livre qui a paru aux éditions du Sous-Sol et on vous retrouve à Adèle Yon pour en parler. C'est un livre qui raconte sa propre histoire, en quelque sorte. Dans la première partie du livre, vous nous racontez de quelle façon la nécessité de faire cette recherche est arrivée à vous, par des chemins un peu détournés d'abord. Et vous parlez notamment du fait que vous avez d'abord commencé un travail de thèse en cinéma autour de la thématique du double fantôme et puis la façon dont vous réalisez à un moment que cette thématique elle est liée à votre arrière-grand-mère alors que la chose vous avait tout à fait échappé d'abord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça veut dire la thématique du double fantôme et de quelle façon les deux histoires se sont révélées liées au point que cette thèse de cinéma, disons, d'une forme, on imagine, assez classique, d'abord, devient peu ou prou l'enquête que l'on a sous les yeux quand on tient ce livre entre les mains.
Alors, le double fantôme, déjà, je précise que c'est une expression que j'ai un peu inventée, enfin, qui n'existe pas en tant que telle, mais par laquelle je définis un motif, donc un récit dans lequel le personnage principal est un personnage féminin, qui doit se construire, qui a un âge de transition entre l'enfance et l'âge adulte, et qui va se construire en se confrontant, voire en s'opposant à une autre femme au statut plus ou moins immatériel, donc soit un fantôme, soit une présence, soit une image, un portrait, quelque chose comme ça. Et c'est un motif qu'on peut faire remonter. Je pense qu'il y en a des formes plus anciennes, mais que, disons, pour pas plus de simplicité, qu'on peut faire remonter au GNR de Charlotte Brontë, donc à la littérature gothique anglo-saxonne, dans lequel voilà, la GNR arrive comme préceptrice dans un château, tombe amoureuse du maître de ce château, et se rend compte que ce château est hanté par une autre présence qui s'avère être celle de la première épouse de Monsieur Rothschild, dont elle prend la place. Et donc cette première épouse, c'est la folle, c'est la mauvaise épouse, c'est la non-mère. Il y a aussi cette dimension de celle qui n'a pas pu, celle qui n'a pas voulu même avoir d'enfant. Et la protagoniste va apprendre tout ce qu'il faut pour être la femme comme il faut en acquérant le contraire du caractère de cette femme à laquelle il faut s'opposer, en gros. Et ça, c'est un motif que moi, j'ai plutôt étudié dans le cinéma. En 1939, Daphné du Maurier sort un roman qui s'appelle Rebecca, dont Hitchcock va tout de suite faire une adaptation avec le producteur américain Selznick. C'est le premier film américain d'Hitchcock. Il sort en 1940 et on retrouve tout à fait la même ligne narrative. Et j'ai vu ce film, j'avais pas du tout en tête de travailler en particulier sur les doubles fantômes, mais j'ai vu ce film, je suis tombée sur ce film et petit à petit je me suis mise à voir des doubles fantômes un peu partout. Pour vous donner d'autres exemples, bah, évidemment il y a Vertigo aussi d'Hitchcock où c'est très présent, qui est presque une réécriture de son propre film d'avant. Il y a Obsession de Brian De Palma, qui est aussi une réécriture de ces deux films dont je viens de parler. Il y a Opening Night de Cazavetes, beaucoup plus tard. Aujourd'hui, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson.
Toujours des femmes hantées par la présence plus ou moins fantomatique d'une femme décédée qui le plus souvent n'a pas c'est eu ça. D'enfant et c'est qui les habite au point parfois de les faire basculer dans quelque chose comme la folie.
Oui, à des moments de transition de leur caractère. Je pense que la notion de récit d'apprentissage est très importante, c'est-à-dire que c'est des moments où le personnage féminin doit apprendre quelque chose, doit se transformer, doit faire sa transition vers une autre forme de féminité. Et c'est là qu'on lui montre bien ce qu'elle ne doit pas être.
Oui, le moment de basculement de la vie d'une jeune femme à la vie de ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire de devenir une bonne mère et une bonne épouse, en
tout
gros.
Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, je me mettais à voir ce motif de manière un peu obsessionnelle dans tous les films que je regardais. Et en fait, parallèlement, j'avais commencé donc l'enquête sur Elisabeth pour des raisons qui étaient tout à fait intimes, que je raconte dans le roman. Et il m'a fallu, et c'est très clair dans ma tête, il m'a fallu ce coup de fil de ma tante qui me dit « Mais tu sais que moi aussi, à ton âge, je me suis posé des questions sur Elisabeth », puis ensuite la confirmation par différentes figures féminines de ma famille, pour que je me rende compte que l'opposition à Elisabeth jouait exactement ce rôle de construction chez les femmes de ma famille. C'est-à-dire, à un moment où la société attend d'elles qu'elles deviennent des épouses et des mères, il y avait cette sorte de fulgurance, d'éclair d'inquiétude sur qui était Elisabeth. Est-ce que je risque de devenir comme elle? Et je dois comprendre, je dois savoir qui elle a été pour surtout ne pas devenir ce qu'elle a été. Et donc devenir une bonne épouse et une bonne mère, par opposition, puisque c'est vraiment dans la famille, Elisabeth est la définition de la mauvaise épouse et de la mauvaise mère.
C'est l'épouvantail. C'est ce qu'il faut surtout éviter.
Et c'est là que le travail que je faisais dans mes recherches en cinéma et ce travail d'enquête se sont rejoints de manière assez surprenante et même, quelque chose de très surprenant, puisque tout d'un coup, ça devenait tout à fait les mêmes schémas d'apprentissage et d'apprentissage.
Il y a différentes étapes dans la manière dont l'enquête s'impose à vous, si on peut dire un peu vite. Et il y a quelque chose de très beau et très émouvant dans le fait que vous ouvrez le livre par une sorte de prologue dans lequel vous faites le récit de la mort d'un grand-oncle à vous, le frère de votre grand-mère. Grand-mère qui est l'une des 6 enfants d'Elisabeth, donc cette arrière-grand-mère. Cet oncle s'est suicidé. Vous retranscrivez la manière dont il a organisé ce suicide. Et vous nous permettez de comprendre de quelle façon cette mort est d'une certaine façon liée à la maladie dont a souffert votre arrière-grand-mère et surtout au silence qui entoure son histoire. Votre grand-mère vous dit à propos de cette mort, ce sera le dernier chapitre de ton récit, parce qu'elle sait que vous avez commencé un travail autour de cette histoire, et vous en faites au contraire le commencement de votre livre, le tout premier chapitre. Quand est-ce que vous avez su décider que, d'une certaine façon, le récit dramatique de cette mort-là allait ouvrir votre livre?
Parce qu'au moment où cette mort advient, l'enquête avait déjà commencé, mais l'écriture pas vraiment. Et donc, c'est le début du livre, mais c'est aussi vraiment le début de l'écriture. Pourquoi? Parce que déjà, ça m'impose quelque chose. C'est-à-dire que tout d'un coup, nous éclate à tous, à la figure, qu'on ne peut pas faire semblant que cette histoire n'a pas de conséquences sur les générations ultérieures. Preuve. Un suicide. Et qu'en plus, je pense, à cause de cette réalisation-là, les frères et sœurs de ce grand-oncle, et donc les enfants d'Elisabeth, acceptent, voire sont volontaires pour me parler. Et moi-même, je me convainc de la nécessité de leur parler. C'est-à-dire que faut quand même comprendre que, étant donné le silence qui entourait ce sujet, hormis ma grand-mère avec laquelle j'étais très bien et très à l'aise, je n'osais pas forcément aller ouvrir ces portes-là du côté de mes grands-oncles et de mes grandes-tantes. Donc, c'est cette mort qui me convainc de la nécessité d'aller les trouver, qui fait qu'ils acceptent, pour la plupart, sans doute. Et le travail d'écriture commence, en fait, là, puisque j'ai à ce moment-là une ténacité et une conviction qu'il faut écrire ce récit qui va me pousser à combler tous les trous qui existent à ce moment-là dans mon enquête, qui est juste une sorte de petites pistes que j'envoie à droite à gauche, des mails de ci, de là, poussées par mon inquiétude, mais pas du tout par quelque chose de systémique, en fait.
Et la façon dont vous parvenez à lutter contre ces difficultés, à aller poser des questions, à aller à la rencontre des membres de votre famille pour raconter cette histoire. La façon dont c'est présent dans le texte participe de l'émotion très grande que ça suscite en retour pour nous lecteurs. Je voudrais qu'on écoute un passage du début de ce texte. On est dans l'une des séquences d'ouverture. Vous faites un voyage avec votre grand-mère et votre grand-père en voiture dans une Yaris qui vous mène du Portugal jusqu'à la France.
Lorsque mes grands-parents m'ont proposé de remonter une voiture avec eux depuis le Portugal jusqu'à Paris, j'ai su que j'allais le faire. Ouvrir cette brèche, m'y engouffrer. Regarder ma grand-mère et lui dire dans les yeux « Betsy ». Lorsque j'y pense, lorsque je pense à la cascade de mots bafouillés qu'il me faudra prononcer pour y arriver, je sens mon ventre se serrer. Comment basculer du silence au son d'un prénom plombé de secrets ? Autrement dit, quelle est la meilleure manière de lâcher une bombe ? Quel chemin emprunter ? Je choisis le détour. Je demande à ma grand-mère qui s'est occupée d'elle quand elle était enfant. Je dis « Betsy, non, air, respiration, nausée, suspension, ta mère, elle n'était pas là ?» Silence. Ma grand-mère dit sans se retourner « Je t'ai vu venir. » Non, ma mère n'était pas là. Ma mère était malade. Elle était suivie dans une clinique privée à Versailles par un médecin dont j'ai oublié le nom. Silence. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle avait, ta mère ? Je demande. Je ne sais pas, dit ma grand-mère. Elle n'a jamais vraiment été diagnostiquée. Silence. Mais si, voyons. Mon grand-père, au volant, intervient sans se retourner. Betsy était schizophrène.
Un extrait de l'un des tout premiers chapitres de votre livre « Mon vrai nom est Elisabeth » Adèle Lyon. Et cette scène de dialogue avec votre grand-mère et ce petit bout de phrase qui n'a l'air de rien mais qui, je trouve, est extraordinairement parlant. Cette phrase que vous répond votre grand-mère « Je t'ai vu venir ». Pour quiconque a essayé de poser des questions dans un univers familial où il y a du silence, et en gros ça, c'est, je pense, l'histoire de toutes les familles. Cette petite phrase « Je t'ai vu venir », cette manière dont votre grand-mère sent que vous avez des questions à lui poser, résiste et en même temps vous répond, est tout à fait bouleversante. Ça, c'est ce passage qu'a lu Auriane Mignot, c'est une manière dont sont retranscrites dans le livre des échanges que vous avez eus avec votre entourage, à commencer par votre grand-mère, mais ensuite avec toute une galaxie de gens de votre famille. Il y en a une autre qui sont la retranscription, suppose-t-on, d'entretiens enregistrés, avec, on l'imagine, une forme de fidélité à l'enregistrement, avec des marqueurs oraux très forts. Voilà, on a l'impression vraiment que vous avez pris en note des bandes enregistrées. Et en même temps, toute une invention dans la manière dont ils sont retranscrits, avec par exemple cette très belle façon dont vous nommez les personnages que vous allez interroger, non par leur prénom, mais par des périphrases, parfois drôles, qui désignent leur position dans cette histoire. Le croyant, la croyante, pour des cousins ou des oncles qui sont très croyants et qui vous parlent du lien qu'ils font, eux, entre la religion et l'histoire de cet aïeul, ou bien celui qui a...
Il a regardé nu à voilà. travers les murs.
Merci, exactement. Celui qui l'a regardé nu à travers les murs, ça, c'est en fait la façon dont vous désignez votre père, oui. Qui, comprend-on dans une autre scène, vous raconte un jour que lui, il a un souvenir d'enfance où son arrière-grand-mère vivait à ce moment-là dans la maison où il est, et elle aurait dit que lui la regardait nu à travers les murs, etc. Tout ceci pour expliquer, vous interroger sur la manière dont vous avez construit ces différents registres de paroles pour un livre qui, au final, fait exister la voix de toutes ces personnes, de tous ces membres de la famille et aussi des gens que vous allez rencontrer au-delà, de manière très singulière. Comment vous en êtes venu à cette construction très, très fine et très singulière.
Est-ce que je peux juste revenir sur le « je t'ai vu venir »
Oui, avec plaisir.
Ouais. Parce que ça me frappe en vous entendant effectivement à quel point c'est parlant. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle me dit ça, ma grand-mère, je pense, se souvient d'un précédent où j'ai essayé de l'interroger sur Elisabeth, où j'étais beaucoup plus jeune. Enfin, dans mon souvenir, j'étais très jeune, dans le sien, un peu moins. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à partir du moment où la question a été posée une fois, elle attend forcément que ça revienne. Et là, ça parle aussi beaucoup de ce moment de transition des femmes de ma famille, c'est-à-dire qu'on sait que les femmes de la famille, à un moment donné, posent des questions sur Elisabeth. Et donc, ce « je t'ai vu venir », il dit ça, il dit « ça y est, c'est ton moment ».
C'est le moment où toi aussi tu vas poser ces questions.
C'est le moment où tu vas poser cette question. Ça m'évoquait simplement ça. Sur la construction, alors ça a été donc notamment entre comment traiter les voix entre le récit narratif de ces moments de rencontre et la retranscription quasiment télégraphique quoi. Je pense que je distinguerai des moments qui avaient. Alors, je ne fais jamais de commentaires, mais dont j'avais l'impression qu'ils avaient besoin de la mise en situation, c'est-à-dire où j'avais l'impression que la manière dont j'étais venue à ces personnes, ou tout ce qui s'est construit, élaboré autour de leurs paroles comptait profondément. Par exemple, ma rencontre avec le petit frère d'Elisabeth, qui est une personne extrêmement, une rencontre extrêmement puissante pour moi, et dans lesquelles tous les signes physiques donnés par son corps sont aussi extrêmement importants à retranscrire. C'est aussi le cas à la fin du livre, lorsque je me rends à Lourdes pour rencontrer la céramiste, avec laquelle il se passe beaucoup d'autres choses que simplement ses mots. Donc j'ai voulu prendre en charge tout cet en dehors du langage par le récit. Et en revanche, et aussi tout ce qui appartient au récit fait vraiment partie du récit de l'existence de la vie d'Elisabeth. C'est-à-dire que tous ces entretiens, en fait, si on regarde bien, ils sont aussi organisés chronologiquement par rapport à la vie d'Elisabeth, sauf la céramiste à la fin. Et donc, il raconte morceau par morceau son existence. Les entretiens retranscrits, c'est très différent. Ils ne sont pas du tout chronologiques et ils sont toujours des en dehors du récit, des en dehors de la narration qui la prolongent, l'arrêtent, la questionnent, l'emmènent ailleurs. Des moments de suspension comme ça où je demande au lecteur d'interrompre sa lecture à un moment pour regarder le problème d'une autre manière, selon un autre angle, d'une autre façon.
Ouais.
Et voilà, c'est cette construction très aérée presque que j'avais envie de à laquelle j'avais envie d'arriver.
Ouais, en vous écoutant, je me dis en fait il y a une double progression dans le livre. Il y a parce que je le disais au début, il y a vraiment une forme de mouvement dans ce livre. On est pris par son mouvement, et ce mouvement, je m'en rends compte en vous écoutant, c'est à la fois le mouvement de la vie de Betty, d'Elisabeth, qui est retracé au fil du récit, et c'est aussi le mouvement qui est le vôtre en faisant cette recherche, tout ça dans une construction qui donc voit alterner ces différents registres d'entretien, mais aussi des moments de recherche beaucoup plus théoriques sur l'histoire de la psychiatrie en France, des moments de fouilles dans des archives, de recherche même d'archives que vous trouvez parfois, que vous ne trouvez pas à d'autres moments, et tout cela dans une construction vraiment extrêmement solide. Est-ce que ça a été long d'y arriver? Parce que nous, elle nous parvient comme ça, dans cette forme à peu près parfaite, mais on imagine que ça a été long
pour
la trouver.
Ça a été épouvantablement long et assez terrible, en fait, même en termes d'expérience d'écriture. Je travaillais 18 heures par jour, je pouvais pas me décrocher de mon ordinateur, il fallait vraiment que je me tire à 2 heures du matin pour arrêter. Tout ça pour organiser ce matériau. C'est-à-dire que finalement, et organiser ce matériau et donc toujours réécrire les transitions, les jonctions manquantes entre ces matériaux que je réorganisais. Donc c'était pas seulement un travail d'organisation, c'était aussi un travail de réécriture, mais que j'ai poussé à un point proche du délire. Et j'ai mis, j'ai passé quasiment un an à réorganiser complètement cette matière. Il y a eu 2 versions antérieures de ce texte qui n'ont rien à voir, mais c'est-à-dire que si vous les lisiez, c'est 2 textes qui sont complètement différents. Et j'ai eu une sorte de révélation au bout d'un moment qui a été, parce que vous dites qu'il y a 2 fils, mais en fait, il y en a 3. Le fil des documents, sont organisés complètement chronologiquement, d'après la vie d'Elisabeth.
Les documents, c'est-à-dire les documents d'archives, notamment des documents d'archives médicales, des dossiers, des études, une thèse à un moment d'un homme qui travaille sur la lobotomie et qui décrit le cas de votre grand-mère. Parle de ces documents-là.
Ce sont les archives privées ou publiques. Ce sont en fait quelles sont toutes les traces écrites que je peux trouver sur cette femme aujourd'hui. Voilà. Elles sont pas toutes là, mais c'est une sélection de toutes ces traces-là. Ces traces-là sont organisées chronologiquement, elles donnent le squelette au livre, et autour de ça, de cette colonne vertébrale, j'ai tramé tout le reste. Et du moment où je me suis dit, en fait, c'est la vie d'Elisabeth que je veux raconter, donc il faut qu'elle donne cette structure au texte, ça m'a pris un an, mais à partir du moment où j'avais ça, tout s'est organisé de la manière la plus... La mieux possible, c'est-à-dire que ça a fonctionné enfin, quoi, et le livre est né à ce moment-là, mais ça a été proche de la torture, ouais, pour être honnête.
Au cœur du livre, on a commencé à l'évoquer, il y a une réflexion sur le statut de l'image, et notamment de la photographie. Vous placez en exergue du texte une petite citation du livre que Roland Barthes a consacré à la photographie. Je vous propose qu'on l'écoute, Roland Barthes, dans une archive de France Culture qui date de 1977.
La fascination de la photographie, c'est toujours pour moi la fascination du « ça a été ». Cela a été. Donc finalement, ce qui me fascine dans la photo, et vraiment les photographies me fascinent, c'est quelque chose où la mort a son mot à dire, certainement. C'est peut-être une fascination un petit peu nécrophilique, pour dire les choses comme elles sont, n'est-ce pas ? C'est une fascination de ce qui a été mort, mais qui se représente comme voulant être vivant. Alors, il faudrait, je le répète, essayer de retrouver toute une esthétique générale de la fascination, qu'on retrouverait aussi des correspondants dans le texte, par exemple, un temps grammatical comme l'imparfait, qui est aussi pour moi le temps de la fascination, qui est si important dans les romans, précisément, qui est le temps du « ça a été », mais en tant qu'on le désire, en tant qu'on l'a désiré, en tant qu'il est là et qu'en même temps, il n'est plus là.
C'est donc sur cette petite photographie abandonnée au fond d'un dossier que je vois Betsy pour la première fois, c'est-à-dire une femme qui correspond à la créature de mes cauchemars, une femme âgée et pathétique qui, dans le silence de son regard, dit à demi-mot ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle n'a pas oublié. Il me faut ce visage figé sur son fond vert, la radicale visibilité de tout ce qu'il ne dit pas pour que la peur se mute en curiosité et la fascination en enquête. Je suis tombée sur ces deux yeux qui me fixaient depuis la mort.
On a écouté une archive de Roland Barthes qui date de 1977, puis Oriane Mignot a lu un autre passage de votre texte, Adèle Lyon. C'est ce moment dans le livre où vous racontez ce que la découverte d'une photographie d'Elisabeth, votre arrière-grand-mère, change pour vous dans la manière dont vous menez cette enquête. Photographie qui n'est pas reproduite dans le livre, il n'y a aucune image de Betsy dans ce livre, même s'il y a un certain nombre d'autres images et des photographies. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'est joué pour vous autour de la découverte de cette image-là ?
Alors, c'est une histoire assez incroyable parce que c'est un passage que j'ai écrit assez tard où j'ai essayé de me ressouvenir du moment où j'ai vu cette photographie pour la première fois. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que au milieu de l'année 2023, j'ai fait tomber mon téléphone portable. La coque s'est séparée de mon téléphone et il y a un petit carré blanc qu'on est tombé. Je l'ai pris et c'était une photographie d'identité. Et c'était une photographie d'Elisabeth et c'était cette photographie dont je parle là. Et j'ai l'impression que je la voyais pour la première fois. Mais bon, évidemment, c'était pas possible parce que je l'avais forcément mise dans mon téléphone. Mais c'est comme si j'avais été incapable de la voir avant. Et en fait, il m'avait fallu comprendre tout ce que j'ai compris durant ces 4 ans d'enquête pour être capable de voir cette photographie. Sauf que plus tard, j'ai retrouvé une photo que j'avais prise de cette photo le 17 mars 2021, donc au moment où se passe la séquence que vous venez de lire, la scène que vous venez venez de lire. Et donc, j'ai compris qu'elle m'avait déjà interpellée, en fait, à ce moment-là, en 2021, que la transition de l'invisible au visible s'était passée en 2021, et que probablement que c'était ça qui m'avait lancée dans l'enquête, mais que, à ce moment-là, ne sachant rien, j'avais pas été capable de voir cette photographie avec toute la violence avec laquelle je la voyais en 2023. Donc cette photographie, elle fait événement deux fois, entre guillemets, dans mon parcours de recherche. Probablement, je suppose, une première fois quand j'avoue, elle m'appelle à l'enquête, et une deuxième fois en 2023 où elle la conclut en me disant, voilà, tout est là en fait, tout est là, et aujourd'hui tu sais ce que veut dire ce visage, tu sais ce que veut dire cette photographie. En revanche, je trouve ça très important qu'elle ne soit pas dans le livre.
Pour quelle raison?
Et de la même manière que d'ailleurs la photographie de la mère de Barthes dans la chambre claire n'est jamais reproduite
absolument.
Parce que justement, c'est là aussi qu'il s'agit d'un roman et pas d'un récit d'enquête documentaire ou ce genre de choses. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est tout ce que le lecteur va être capable d'intégrer, de placer,
de projeter,
exactement, c'est le bon mot, sur cette photographie, et comment cette photographie manquante peut être un endroit où nous allons réinvestir nos imaginaires féminins, nos imaginaires de folles, nos imaginaires de la violence faite aux femmes, tous ces imaginaires là en fait, il faut qu'ils aient une place, et si je mets cette photographie à la place de tous ces imaginaires, vous verrez que de la violence brute.
Mais c'est intéressant que vous disiez, c'est la raison pour laquelle c'est un roman et pas une enquête documentaire. On pourrait dire aussi que il y a beaucoup de documentaires qui font dans leur forme même, comme le fait votre livre, place à cette projection et à cette espèce de construction en image kaléidoscopique d'une certaine manière. De même qu'il y a une sorte de cœur des voix autour des différents récits familiaux qu'on vous fait. Il y a un cœur des archives, si on peut dire, et des lacunes et des trous, et sans arrêt, il faut revenir à ces trous, il faut revenir à ces lacunes pour que on puisse justement, nous lecteurs, projeter une image, mais surtout être dans le mouvement de cette projection. Il n'y a jamais de choses arrêtées, il n'y a jamais de choses figées. De même que sur l'un des sujets absolument centraux du livre, qui est la maladie mentale dont souffrait Elisabeth, diagnostiquée schizophrène, on se dit, à vous lire, et plus on avance dans votre enquête, que ce diagnostic est sujet à remise en cause, que probablement c'était plus compliqué que ça, mais malgré tout, on comprend qu'elle a souffert de troubles mentaux, notamment après la naissance de chacun de ses 6 enfants, alors qu'elle ne souhaitait pas d'enfants. Mais il n'y a rien de tranché. À chaque fois qu'on commence à dire quelque chose, on a envie de compléter cette image. Est-ce que ça, c'est quelque chose à quoi vous teniez, que vous aviez en tête dans l'écriture, dans la forme de votre livre?
Oui, toujours. D'ailleurs, je ne place pas du tout le roman du côté de la fiction qui consisterait à incarner un personnage en remplaçant tous ces vides par l'invention, par la fable. J'y ai toujours tenu, c'est-à-dire que parce que Betsy est le personnage manquant, donc lui en faire un personnage présent, ce n'est pas refabriquer un autre personnage inexistant. Je veux dire, je pouvais pas remplacer le vide qu'elle a été par une présence qui aurait été factice. Et puis, ce qui m'a toujours intéressé, c'est le vide qu'elle a été et le vide que par transitivité, elle a laissé. Et cerner ce vide, ce n'est pas le remplacer par une présence de personnage, en fait. C'est cerner ce vide qui m'importait.
Au fur et à mesure que l'enquête progresse, vous partez d'abord donc d'entretiens avec des membres de votre famille, d'une correspondance aussi très importante. Sont reproduites de très nombreuses lettres que se sont échangées un personnage absolument central de cette histoire, qui est le mari d'Elisabeth, qui s'appelait André et Elisabeth. Vous reproduisez d'abord des lettres d'André, puis des lettres d'Elisabeth, et la parole d'Elisabeth, sont ces écrits qui surgissent dans le livre, est très importante. Mais vous en arrivez aussi à un moment retracer l'histoire de la lobotomie à l'échelle mondiale et en France en particulier, puisqu'on comprend qu'Elisabeth a subi une lobotomie. Je vous propose qu'on écoute une archive d'un neurochirurgien qui exerçait à Sainte-Anne, qui s'appelait Pierre Puech. C'est une archive qui date de juillet 1947. Il explique les progrès de ce qu'on appelait donc la psychochirurgie. On l'écoute.
À l'heure actuelle, la psychochirurgie est devenue une chirurgie de fonction, c'est-à-dire qu'on essaye de sectionner des fibres nerveuses situées à l'intérieur du cerveau et lorsque cette section est faite dans un endroit convenable, on arrive à guérir un certain nombre de troubles mentaux. Je dois dire que ces interventions, qui sont des interventions délicates et qui ne sont pas sans risque, ne doivent être faites que lorsque les traitements habituels des troubles mentaux sont restés inefficaces. Or, vous savez qu'à l'heure actuelle, les troubles mentaux, le traitement des troubles mentaux a beaucoup progressé avec l'électrochoc et toutes les méthodes convulsivantes telles que, par exemple, le cardiazol et l'insuline. Mais il y a aussi des cas dans lesquels ces médicaments restent inefficaces et c'est dans de tels cas qu'on peut avoir recours à la chirurgie nerveuse. C'est Egas Modis de Lisbonne qui a créé le terme de psychochirurgie. Il a créé ce terme en décrivant une intervention qu'on appelle la lobotomie et qui consiste à couper quelques filets blancs, nerveux, qui unissent le lobe frontal avec des noyaux gris qui sont situés à l'intérieur du cerveau.
Cette archive, pour donner à entendre ce discours médical sur la trace duquel vous partez aussi à un moment de cette enquête, Adèle Yon, et son caractère pour le moins terrifiant avec le recul aujourd'hui. Il y a plusieurs moments comme ça de votre livre qui relèvent, si on devait les caractériser en termes de genre, presque du récit d'horreur, le récit de la lobotomie, dont vous racontez vraiment l'invention. Vous mentionnez cet homme portugais dont on a entendu le nom, là, Egas Modis, puis Walter Freeman, un homme qui popularise cette technique aux États-Unis, puis son importation en France. Mais plus loin dans le texte, vous décrivez aussi, vous allez à la rencontre d'une infirmière qui a travaillé dans l'institution où a été internée votre grand-mère et qui fait des descriptions véritablement terrifiantes de ce qui se passait dans ces institutions dans les années 50, notamment. Comment vous en arrivez à vous lancer dans cette enquête qui est celle d'une historienne, au fond, qui ferait l'histoire de cette technique médicale qu'est la lobotomie, pardon.
Bah, j'y arrive très empiriquement, tout naturellement, parce que je cherche à savoir. Je savais donc qu'Elisabeth avait subi une lobotomie. Je savais pas ce que c'était, c'est-à-dire que je pensais que c'était quelque chose. Je savais que c'était quelque chose d'assez violent, mais j'imaginais quelque chose de réversible, comme les électrochocs, ce type de violence psychiatrique. J'avais pas conscience que c'était déconnecter deux parties du cerveau de manière irréversible. Et donc, la première question qui se pose à moi, c'est qu'est-ce que c'est que cette pratique? Qui la faisait? Pourquoi? Où? Comment? Etc. Donc la recherche, elle intervient vraiment de manière assez innocente pour, encore une fois, remplir un vide qui est celui de son vécu à ce moment-là. Mais vous parlez d'un récit horrifique. Je suis presque un peu embêtée parce que, justement, en m'intéressant à l'histoire de la lobotomie, ce que je découvre, c'est un récit horrifique avec un personnage notamment comme Walter Freeman, qui est une espèce de caricature de savant fou, complètement maléfique, épouvantable. Puis des images cinématographiques comme Vol au-dessus d'un nid de coucou, enfin des choses qui justement vont du côté de l'horrifique. Et tout mon travail de recherche a consisté à comprendre et ensuite à démontrer que ce type d'opération n'était pas de l'horreur, mais était une prolongation de violence familiale ou sociale par le biais de la médecine. Et donc du coup, je pense qu'il faut le comprendre à l'inverse, comme quelque chose pas forcément au sens où c'était hyper courant, mais plutôt au sens où on pouvait banalement en venir à utiliser ce type d'opération.
Absolument. Et quand je parlais de caractère horrifique, vous faites bien de préciser, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais c'est vrai qu'on est saisi aussi par la violence. Et je disais au début de cet entretien, il y a une forme de quelque chose de l'ordre d'une révélation pour nous, qui est la correspondance entre cette violence médicale, psychochirurgicale, et la violence patriarcale qui s'exerce au sein de la cellule familiale, spécifiquement à l'égard des femmes. C'est aussi cette correspondance-là que votre texte met à jour.
Et cette correspondance, elle se loge, je ne connaissais pas l'archive que vous avez fait entendre, mais en fait, elle est très intéressante parce qu'elle se loge précisément dans l'utilisation du mot « guérir » qu'utilise Pierre Puech dans cette archive. Le mot « guérir », il est complètement faux. C'est-à-dire que les médecins de l'époque n'ont jamais pensé guérir. Ils ont pensé empêcher le patient de ressentir les émotions négatives qui sont associées à la maladie mentale. On empêchait les effets, on ne guérissait pas les causes. Et en fait, sur cette ambiguïté de l'utilisation du mot guérir, se sont greffées énormément de violences, notamment familiales, c'est-à-dire que sous prétexte d'enlever la cause, on intervenait sur les corps des femmes ou des enfants, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'enfants, sur lesquels les hommes de l'époque avaient légalement des droits, en fait.
Pour surtout faire taire tout ce qui pouvait déranger l'ordre patriarcal, familial, bourgeois aussi.
Oui, mais dans quelque chose de très banalisé, justement. Mmh. Cette personne m'appartient, il faut qu'elle rentre dans les clous, dans la norme, c'est normal d'intervenir sur son corps.
Il nous faudrait beaucoup plus de temps pour développer tout ça, mais l'horloge tourne et le Book Club continue. Et il est 15h50 et comme chaque lundi, l'heure est venue de retrouver Clémentine Mélois en résidence pour quelques semaines dans le Book Club et à qui nous avons confié la tâche de réfléchir au lien entre ce qu'on appelle l'actualité et la littérature. Bonjour Clémentine.
Bonjour Mathilde.
Aujourd'hui, vous nous parlez, entre autres choses, d'un naufragé célèbre.
Au mois d'octobre de l'an de grâce 1704, un marin écossais du nom d'Alexander Serkic fut débarqué sur une île inhabitée de l'océan Pacifique. Il y passa 5 ans et son histoire inspira à Daniel Defoe l'écriture d'un des premiers romans d'aventure en langue anglaise, Robinson Crusoe, paru en 1719. S'inspirant à son tour du roman de Defoe, Michel Tournier publia en 1969 « Vendredi ou les limbes du Pacifique ». Il en fit ensuite une adaptation pour les jeunes lecteurs, « Vendredi ou la vie sauvage », paru en 1971. 1971, anagramme numérique de 1719, date de la parution de Robinson Crusoe. Coïncidence, oui. Il y a dans ce roman un passage auquel je pense souvent dans la vie de tous les jours. Dans ce passage, suivant l'exemple des cochons sauvages qui s'enfouissent le corps dans des marécages pour échapper à la chaleur et aux moustiques, Robinson, découragé et fatigué, s'immerge des journées entières dans ce que Michel Tournier nomme la souille.
La souille, ce n'est pas un mot qu'on emploie tous les jours. Clémentine, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est ?
La souille, c'est la flaque boueuse dans laquelle se vautre le sanglier. Dans son dictionnaire historique de la langue française, l'un de mes livres de chevet, Alain Rey hésite quant à l'origine étymologique du mot, qui viendrait du bas latin solium, ça fait penser à paladin mais rien à voir, du bas latin solium qui signifie siège, trône et cuve, ou alors de soucula qui signifie jeune truie. Souillé, souillon et souilleux en sont des dérivés. Quoi qu'il en soit, Mathilde,
je vous suis.
La souille dans laquelle s'immerge Robinson dégage des gaz toxiques qui lui provoquent des hallucinations. Il oublie où il se trouve, délire, redevient un fœtus dans le ventre de sa mère et sort de là le soir en marchant à 4 pattes comme un animal. Comme Ulysse embarquant de force son équipage pour fuir les lotophages qui leur ont offert le délicieux fruit de l'oubli, seul un sursaut de raison sauvera Robinson, qui devra fournir un effort de volonté pour s'éloigner de la souille afin de ne pas sombrer.
Bon, mais alors pour quelle raison est-ce que vous nous parlez de cet épisode de Vendredi ou la vie sauvage, Clémentine ?
Si je pense à ce passage aussi souvent, c'est qu'il me semble que chacun porte en soi sa propre souille. Il en existe toute une variété, à chacun la sienne. Pour oublier que la planète brûle et que la démocratie vacille, certains binge-watch des séries, les Québécois le diraient autrement, mais d'autres jouent à des jeux vidéo ou regardent des épisodes de Marié au premier regard ou du meilleur forgeron.
C'est vrai.
Ça m'arrive aussi, mais en ce qui me concerne, je trouve l'oubli dans les vidéos de chiens sur Internet. Un corgi monte sur le dos d'un poney, un bulldog français fait du skateboard en Californie, un chihuahua fête ses 11 ans à côté d'un gâteau à son effigie. C'est irrésistible et tout cela me prend beaucoup trop de temps, un temps que je pourrais consacrer à faire des choses utiles comme relire Proust, vider le lave-vaisselle ou sauver le monde. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ce que ces vidéos de chiens d'Internet disent de nous. À travers elles, la part d'enfance enfouie en nous affleure à la surface et nous y retrouvons quelque chose des histoires que nous lisions enfants et dont les héros sont des animaux.
Alors, quelle est la particularité de ces héros qui ont la forme d'animaux ?
Ces personnages vivent dans un état intermédiaire entre l'enfance et l'âge adulte. Ils ont des préoccupations d'enfants, mais peuvent conduire une voiture, vivre seuls et partir en voyage sans avoir besoin de le justifier. Le monde dans lequel ils évoluent est un monde rêvé. L'injustice, la violence et les soucis existent bien, mais trouvent toujours une résolution. Dans ce monde clos, rassurant, tout est possible et nos besoins primaires sont comblés. Amour, amitié, échec des méchants, compréhension du monde et biscuits à volonté. Et quoi de plus irrésistible qu'un hibou en pyjama ou qu'un chien avec un chapeau ?
Oui, c'est vrai. Quoi de plus irrésistible ? Vous pourriez nous donner un exemple de ce genre de livre pour enfants ?
Dans mon panthéon littéraire personnel, il y a pour commencer l'auteur et dessinateur américain Arnold Lobel et son livre Pig, paru pour la première fois en France sous le titre Porculus en 1971. 1971, qui est aussi l'année de la parution de Vendredi ou la vie sauvage. Coïncidence ?
Oui.
Oui, je crois. Porculus, c'est l'histoire d'un adorable cochon qui aime s'asseoir et s'enfoncer dans la bonne boue si douce. Jusqu'au jour où la fermière, prise d'une crise de ménage, passe l'aspirateur partout et nettoie la précieuse mare de boue. C'est là que les ennuis et l'aventure commencent. Plus récemment, dans Adieu au dieu dîner, paru en 2019, l'autrice et dessinatrice Delphine Bournet met en scène une cochonnette aux prises avec une soupe qui se met à lui faire la leçon, lui reprochant d'être capricieuse et mal élevée. C'est drôle, intelligent, et j'ai autant de plaisir à relire ce livre que si j'avais 7 ans. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu des albums pour enfants. Ils doivent, comme le disait Roald Dahl, l'auteur de Charlie et la chocolaterie ou Sacrée sorcière, pouvoir supporter 50 lectures successives sans jamais s'épuiser, ni épuiser les parents qui en font la lecture à voix haute. Alors la prochaine fois que je serai tentée d'échapper à l'actualité, plutôt que de plonger dans la souille des vidéos d'Internet, je relirai plutôt un livre pour enfants. C'est le meilleur antidépresseur non chimique que je connaisse.
Et je ne résiste pas au plaisir, Clémentine, de rappeler que vous êtes aussi l'autrice de livres pour enfants. On recommande chaleureusement la lecture, par exemple, entre autres, de votre série Les chiens pirates à l'école des loisirs. Lecture d'actu, votre chronique en attendant, est à retrouver sur le site internet de France Culture ou sur l'application Radio France. Et comme chaque jour en fin d'émission, nous jouons à notre grand jeu des pages musicales grâce à vos suggestions. Si dans un livre vous repérez un passage qui cite une chanson, un air de musique, prenez-le en photo, envoyez-le nous à l'adresse mail du Book Club, lebookclub@radiofrance.com ou via le compte Instagram de l'émission. On en choisit un tous les jours pour nous quitter en chanson. Aujourd'hui cependant, nous avons trouvé de la musique dans votre livre, Adèle Lyon. Il n'y a pas tant de références musicales que ça, mais il y en a une en particulier. Dans la transcription d'un échange entre vous et votre grand-père, dont Betsy était la belle-mère, et qui vous livrait ici son regard sur le sentiment qu'elle éprouvait à l'égard de son mari, André. André était l'amour de sa vie, et voilà, elle a buté contre un mur. Elle désirait ses manifestations d'affection, de tendresse, qui ne venaient jamais. Mon grand-père se met à chantonner. C'est mon America, moi, Madeleine. Il dit, tu la connais cette chanson ? Je secoue la tête. Tu sais, c'est la chanson de Brel. C'est le type qui est amoureux, il va tous les soirs à la gare, il arrive avec un bouquet et elle ne viendra pas. Elle est si belle, c'est mon Amérique à moi. C'est une chanson merveilleuse. Et puis paf, le train arrive, elle n'est pas dedans et il revient le lendemain et le surlendemain. C'est cette déception permanente. Ça m'a touchée. Cette déception permanente, c'était aussi une confiance permanente, totale. C'était une histoire d'amour, une vraie.
Toute ma vie, Madeleine, que j'attends là. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas. Il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le tram 33, trop tard pour les frites de Gênes. Madeleine n'arrive pas, Madeleine.
Un très grand merci à Adèle Lyon d'avoir été avec nous pour parler de ce très beau livre, Mon vrai nom est Elisabeth. Il a paru aux éditions du Sous-Sol et se trouve dans toutes les bonnes librairies. À la réalisation aujourd'hui, c'était Anna Holweck, au son Jean-Guilain Meige. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Oriane Mignot, Marianne Chasseur, Jeanne Aléos, Léa Weisgruss, Louise Hott et Alexandre Alaï-Bégovitch.